Francine, bien, je vous laisse continuer.
Vous venez de nous lire donc ce psaume 25, un extrait des versets 4 à 9. Avec l'image des chemins, bon, les gens qui le lisent dans le lectionnaire, c'est-à-dire ou dans le prion en église, vont peut-être chercher le mot chemin. C'est clair que moi, je vous ai donné une traduction qui faisait fond sur cheminer et chemin à chaque fois que, dans le texte hébreu, on trouvait ces mots-là. Pour vraiment faire réaliser aux gens que, en tout cas, dans le texte hébreu, ça ressort beaucoup. Vous avez aussi, hein, peut-être remarqué en passant, cette même idée qu'on trouve chez Ézéchiel. Ne te rappelle pas les révoltes de ma jeunesse. Ce ne sont pas les décisions antérieures qui comptent, mais rappelle-toi de moi dans ton amour. C'est la décision que je prendrai maintenant, que je demande à Dieu de regarder. C'est bien parce qu'Ézéchiel m'a dit de faire cela et que Dieu faisait cela. La finale du psaume, je vais l'utiliser pour faire une transition avec la deuxième lecture.
Ah. Voilà.
Qui, oui, elle aussi se prête assez bien à enrichir notre réflexion sur l'Évangile. Cette finale du psaume, c'était à propos du fait que le Seigneur nous montre le chemin. Il nous fait cheminer et il nous enseigne son chemin. Nous enseigner son chemin, ce serait par exemple nous l'expliquer. Nous montrer son chemin, c'est peut-être le prendre lui-même pour nous montrer comment ça fonctionne. Je dirais que la deuxième lecture, avec l'hymne christologique du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, joue exactement ce rôle. On verra que Dieu, ici, prend lui-même le chemin et nous le montre.
Donc, c'est ça. La deuxième lecture, c'est une lecture continue de la lettre aux Philippiens, hein,
oui.
Dans laquelle on est, qui, bon, en principe, n'a pas de lien, n'est pas choisi plutôt en fonction de l'Évangile et de la première lecture, mais comme vous dites, il arrive que l'on peut quand même y puiser, les faire nous-mêmes,
les liens. Absolument.
Hein? Et ce que vous nous dites, c'est que finalement, le Seigneur ne fait pas juste parler, mais il agit.
Il agit lui aussi, exactement, tout comme ce qui nous est demandé. C'est une lecture, cet extrait de la lettre aux Philippiens, c'est une lecture en deux sections, avec indication au lectionnaire qu'on peut ne lire que la première section.
Quelle erreur!
Oui, à mon avis.
Quelle erreur! Il faut qu'elle soit lue au complet.
Je le pense.
Sinon, on l'appauvrit.
Comment tout de même cette première partie qui est intéressante, où Paul donne aux Philippiens des conseils sur l'agir en Christ, et donc l'agir chrétien. C'est essentiellement un agir éthique. Et bon, puisque nous voulons faire des liens, on pourrait dire, voici ce qui est pour Paul le chemin annoncé par le psaume, ou alors on pourrait dire, voici ce qui est pour Paul dans l'Évangile, faire la volonté du Père ou aller travailler à la vigne du Père.
Et effectivement, je trouve ça tellement beau, hein. Donc la partie éthique, hein, c'est dans le Christ, et on reprendra ça, on se réconforte les uns les autres, on s'encourage dans l'amour, on a de la tendresse et assez d'humilité pour placer les autres au-dessus de soi-même, ne pas se préoccuper seulement de soi, mais aussi des autres. Évidemment, on s'entend là, c'est pas textuellement, c'est vous qui l'avez reformulé pour que ça soit
les principaux,
très clair. On va retrouver ça finalement.
Oui, c'est le même vocabulaire avec des phrases un peu abrégées, je dirais. Donc, amour, tendresse, respect de l'autre, et bon, on pourrait se dire, oui, c'est beau, c'est des beaux discours fleurs bleues. Paul ne fait pas un discours en l'air ici, il y a des conflits interpersonnels dans la communauté des Philippiens, on le voit entre autres, si ma mémoire est bonne, au chapitre 4. Il sait de quoi il parle en invitant les gens à essayer de bien s'entendre et à se respecter. En même temps, on est en monde grec, hein, la ville de Philippe, ce serait dans la plus pure tradition des écrits de l'Antiquité et de l'humanisme grec d'inviter les gens à bien se conduire les uns envers les autres. Hein. Ce sont de belles vertus. On pourrait dire, dans un vocabulaire plus contemporain, ce sont de belles valeurs, hein. Ce qui n'est pas faux du tout, qui n'est pas non pertinent, mais un peu à courte vue du point de vue de Paul ici, qui nous dit, lorsqu'on agit comme ça, et lorsque moi, Paul, je vous invite à agir comme cela, c'est pas parce que ce sont des belles valeurs, mais parce que c'est ainsi que Dieu agit. Et donc, la motivation qui est donnée à l'agir ici est une motivation théologique et non pas une motivation morale. la super motivation, c'est l'hymne. Et donc, c'est la deuxième partie. Couper cette deuxième partie, ça voudrait dire qu'on se contente de la morale.
C'est ça. Quand vous dites hymne, pour que les personnes qui nous entendent, que ce serait une hymne, donc un chant, hein, qui était utilisé dans les premières communautés chrétiennes, que Paul intègre
oui,
à sa lettre.
Hein, tout à fait. Ça. Et c'est l'hymne que nous avions il y a deux semaines, parce que il y a deux semaines, la lecture des dimanches continue, en tout cas, est interrompue par la fête de
très
la
juste.
Croix glorieuse. Mm-hmm. Alors, c'est curieux que, bon, deux semaines, et évidemment, ça fait que les gens vont peut-être être d'autant plus tentés de couper cette deuxième partie
ouais,
que ça a été lu il y a deux
ben,
semaines.
Oui.
Au fond, ce que Paul nous dit, si on résume un peu les grandes articulations de cet hymne et surtout de la première partie, c'est que Jésus, le Christ, qui est en Dieu ou de condition divine, se vide de lui-même. Et si je reprenais les mots du texte de Paul, donc, ne pensez pas d'abord à vous, mais aux autres. Dieu quitte sa propre condition divine parce qu'il se préoccupe de nous et donc il se vide de lui-même. Paul, alors, nous invite à agir comme Dieu agit, avec le même amour, avec la même compassion, avec la même préoccupation, le même souci de l'autre. Et c'est finalement toute l'incarnation qui montre que Dieu prend ce chemin-là, exactement, de communion, de compassion, de tendresse. Au fond, pour le dire autrement, tout ce que Paul nous dit de faire, en Jésus, Dieu le fait lui-même, en acte. Quand on pense, par exemple, aux attitudes et aux actes de Jésus face aux exclus, face aux malades, au sens aigu que Jésus peut avoir de la dignité des gens, y compris et d'abord la dignité des gens qu'on méprisait, qu'on pense à Ézéchiel qui dit « Mais est-ce que je veux la mort du méchant? Non, je veux qu'il vive. » Qu'est-ce que Jésus fait? Sinon, manifester en acte que le méchant ou l'exclu, le méprisé, doit avoir une seconde chance et qu'on l'invite encore à changer de vie, à prendre d'autres décisions et ainsi de suite. Alors, vous voyez que finalement, Jésus met en acte ce que Dieu disait à travers le texte d'Ézéchiel. Il n'est jamais trop tard pour agir autrement. Je dirais que Jésus met en acte aussi, par son incarnation, sa mort, ce que l'Évangile nous dit de faire, c'est-à-dire, non pas dire, mais faire, agir. En Jésus, c'est Dieu qui agit, d'une certaine manière. Pour moi, ça signifie que lorsque l'Évangile nous dit le critère de ma fidélité, pour moi, ce sera toujours l'agir, je peux dire, pour Dieu, le critère de sa fidélité aussi, ce sera l'agir.
Francine, le moment est venu de s'aligner sur la finale de cette parabole.
Oui. Donc, revenir à notre point de départ, après cet excursus dans les autres lectures, incluant le psaume, cette finale de la parabole qui est tellement plus difficile à entendre que la parabole elle-même. Vous disiez combien la parabole est simple. Je pense qu'on doit bien prendre la mesure de l'impact de cette finale que vous pourriez peut-être rappeler à nos auditeurs, s'il vous plaît.
Donc, Jésus pose la question, « Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? » Ils répondent, « Le premier. »
Et alors, Jésus va retourner contre eux leur propre réponse.
Pour dire ceci, « Je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous dans un chemin de justice, et vous n'avez pas cru en lui. » Tandis que les publicains et les prostituées l'ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui.
On voit que Jésus leur dit, le fils que vous jugez conforme à la volonté du Père, le premier fils,
en fait, il correspond
aux publicains
et prostituées.
On ne doit pas oublier que Jésus est en train de parler au chef des prêtres.
Oui, vous avez raison. Hein? Oui.
Et donc, c'est l'élite dirigeante et spécifiquement l'élite religieuse. Il y a quelque chose d'excessivement choquant, certainement.
Ben oui,
de
parler comme ça aux chefs religieux, là, il faut le faire. Hein?
C'est vraiment une très forte provocation, un contexte polémique dur, qui était certainement déjà un contexte polémique difficile à l'époque de Jésus, et il ne faut pas oublier que c'est toujours accentué, l'aspect polémique, dans l'évangile de Matthieu. Donc, dire à ces gens qui représentent l'élite des croyants que les publicains et les prostituées, qui sont les plus loin de Dieu à tout point de vue, et qui ne sont pas seulement des pécheurs en actes ponctuels de temps en temps, mais des gens installés dans une situation permanente qui les maintient loin de Dieu, dire que ces gens-là, si peu zélés pour le règne de Dieu, correspondent en fait au Fils qui répond non d'abord, mais finalement va accomplir la justice. C'est lui qui va accomplir la vérité du Père. Ce sont ces gens-là pour son auditoire. C'est une gifle, hein? C'est certainement une gifle verbale. Je rappelle ici la traduction que j'ai un tout petit peu modifiée pour qu'on entende bien que ces gens-là qui se sont repentis, publicains et prostituées, sont dits donc avoir suivi Jean le Baptiste qui marche sur un chemin de justice. Le mot « chemin » est là, en grec « odos ». Il est escamoté par la traduction parce que concrètement, il n'est pas indispensable pour comprendre l'idée, mais on dit bien dans le texte, Jean le Baptiste pose des actes de justice, marche sur un chemin de justice, et voici que des gens ont entendu son appel et se sont repentis et se sont mis en marche à sa suite sur un chemin de justice. C'est très paradoxal que Jésus donne ces gens-là en signe ou en exemple à l'élite religieuse. Et ici, on rejoint bien Matthieu.
Qui est dans sa communauté, parce que faut faut pas perdre ça de vue, que dans la communauté de Matthieu, la communauté avait maille à partir peut-être avec une certaine catégorie de pharisiens. Pour faire attention, parce qu'il y a eu plusieurs pharisiens qui sont devenus chrétiens,
oui,
et tout
c'est
ça.
Certain.
Mais je pense qu'au niveau, il y avait un durcissement, au niveau des chefs, là.
Tout à fait.
Et puis ça les fatiguait de voir cette communauté chrétienne, judéo-chrétienne, finalement.
Oui, eux, ça les dérangeait, mais c'est que pour Matthieu, c'est une tragédie de voir que ce ne sera pas la majorité d'Israël qui devient chrétien. Pour lui et pour sa communauté, c'est davantage que un irritant ou un mauvais voisinage. Quelques accrochages. Pour la communauté chrétienne de Matthieu, qui comporte majoritairement des Juifs devenus chrétiens, c'est un véritable drame. Ce sont leurs amis, leurs voisins, leurs parentés.
Et même les membres de leur famille,
Finalement, ne deviendront pas chrétiens. Et comment Matthieu peut-il le savoir? Mais parce qu'on est 50 ans déjà après la mort et résurrection de Jésus. Et les jeux sont faits à toutes fins utiles. On n'espère plus. Donc, c'est certain qu'il y a une sorte d'amertume profonde et de grande déception chez Matthieu. Et c'est ça qui l'amène à durcir. Cette parabole-ci qui se termine sur des paroles un peu acerbes, au moins, cette parabole laisse encore une petite porte ouverte. Puisqu'il y a deux fils et qu'on dit aux anciens et aux chefs des prêtres, Jésus dit, voyez, ces gens-là ont entendu l'appel, se sont convertis, sous-entendu, peut-être vous aussi.
Exactement, ben oui, c'est ça.
Puisqu'on a aussi le texte d'Ézéchiel qui dit, mais il n'est jamais trop tard pour changer d'idée. Mais vous allez voir la semaine prochaine avec la parabole des vignerons. Et ensuite, dans deux semaines, avec la parabole des invités aux noces,
ça va
c'est
aller
terminé.
De mal en pis, quoi.
C'est terminé. Et on aura avec ces paraboles-là, clairement, une rétrospective, un regard chrétien sur le refus d'Israël. Ce sont des paraboles de jugement. Ici, c'est encore...
Il y a encore une ouverture, un appel, une ouverture, une invitation.
Oui. Alors, au fond, c'est comme si Jésus disait, écoutez, jusqu'à maintenant, vous avez ignoré les appels. Hein. Vous pensez être ceux qui disent oui. Et peut-être dites-vous oui, mais en réalité, vous agissez en non. Hein? C'est comme le deuxième fils. Hein? Et en voyant donc que les publicains et les prostituées entendent l'appel de Jean, se sont repentis, vous auriez pu voir là-dedans un signe et vous repentir vous aussi. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la parabole leur rappelle, avec une certaine finesse, qu'il n'y a pas d'obéissance parfaite chez aucun des fils. Il n'y a pas d'adéquation parfaite entre le dire et le faire. Comme si la parabole voulait leur dire, vous croyez que votre obéissance est parfaite, mais regardez ces deux fils-là, et tantôt vous êtes l'un, tantôt vous êtes l'autre, essayez de voir si, au-delà de votre « oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur », est-ce qu'il n'y aurait pas un écart entre votre bonne volonté, votre certitude tranquille d'avoir la vérité et d'être toujours dans le bon chemin? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de vous interroger? C'est dans ce sens que je dis que la parabole laisse une petite ouverture. Ouais. Mais je pense honnêtement que quand je parle comme ça, ça peut être davantage valable au niveau du Jésus historique. Je crois que déjà chez Matthieu, c'est... je vais un peu trop loin, je pense.
Ah oui.
Oui, je pense que pour Matthieu, il y a presque plus d'ouverture possible.
En tout cas, chez les chrétiens qui vont entendre ça dimanche, j'espère qu'il va y avoir une ouverture quand même.
Hein? À commencer par nous-mêmes.
À commencer, quand j'ai les chrétiens,
oui.
Je m'inclus,
oui,
n'est-ce
moi
pas?
Aussi.
Alors, c'est ça, comme vous dites, hein, oui, Seigneur, puis on passe pas à l'action, ou bien on dit un non catégorique, puis après ça, on se reprend, puis bon.
C'est ça.
J'aime beaucoup ce que vous dites, là, cette dimension.
Réponse
ambivalente, ambiguë, en fait, c'est ça.
C'est ça.
Il n'y en a aucun qu'on peut prendre comme modèle, genre, là. Lui, il a dit oui, puis il a agi.
Oui, c'est ça, non.
Et, c'est celui qui a dit non qui a agi. Bon,
on n'a pas à se faire croire que...
C'est ça.
Et ça n'est même pas exigé, d'ailleurs. Il n'y a rien dans la parabole qui reproche au premier d'avoir dit non d'abord. Mm-hmm. Ça n'est pas exigé. Mm-hmm. Cette coïncidence parfaite et totale entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'important, c'est ce qu'on fera au moment venu. Et donc, c'est la décision d'agir qui est importante. Un dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que le verbe à propos des pécheurs, des publicains, des prostituées et du règne de Dieu... le verbe est au présent. Les prostituées, en vérité, dit Jésus, le Amen, en vérité, je vous le dis, les prostituées et les pécheurs, les publicains, vous précèdent dans le royaume de Dieu.
Et c'est vraiment au présent,
c'est
de l'indicatif.
Présent. Ouais. Tout à fait. Mm-hmm. Et donc, ça n'est pas « entreront au ciel avant vous ».
C'est ça.
Ou, comme j'ai déjà pensé, moi, « auront des meilleures places hein, », mm-hmm. seront dans les meilleures rangées, donc seront assis devant vous. Mais quand j'étais jeune, je pensais que c'est ça que ça voulait
c'est
dire.
Ça.
Mais non, d'abord, c'est pas au ciel, c'est pas après notre mort et ce sont pas des places physiques. C'est nous précéder, entrer maintenant. Ils entrent maintenant dans le règne de Dieu, avant vous. Et le fait aussi que Matthieu utilise l'expression « royaume de Dieu » plutôt que « royaume des cieux ». Habituellement, Matthieu utilise l'expression « royaume des cieux ». Donc ici, c'est « royaume de Dieu ». Donc, ne pensons pas au ciel, mais à une réalité actuelle. Hein. Personnellement, j'emploie plutôt l'expression « règne de Dieu ». Il y a un seul mot en grec qu'on traduise « règne au royaume ». Alors, le règne de Dieu, dans ce texte, c'est une réalité actuelle hein, dans laquelle on entre maintenant. Quand on prend la décision d'agir de telle manière, la manière nous est donnée, entre autres, par Jean, qui est venu sur un chemin de justice, ou par Ézéchiel, pratiquer le droit et la justice. Lorsqu'on agit de cette manière-là, concrète, on entre déjà dans la réalité du règne de Dieu qui est à l'œuvre dans l'humanité. Maintenant, que Dieu lui-même, au fond, met à l'œuvre. Hein, le règne de Dieu, c'est le mouvement que Dieu inscrit. C'est le levain dans la pâte, pour employer une autre image, une autre parabole. Dieu lui-même est déjà impliqué dans cette humanité dans laquelle il travaille à faire advenir le règne de Dieu. Si bien que prendre la décision maintenant d'entrer sur ce chemin-là, c'est effectivement entrer maintenant et faire advenir maintenant le règne de Dieu. Même si nous ne le savons pas toujours, même si nous n'y pensons pas non plus à chaque fois, c'est déjà de travailler avec Dieu à transformer ce monde en un monde plus juste et ainsi donner plus de sens à chacun des actes de notre vie quotidienne.
Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral et dominicain à Montréal. Celui qui vous parle s'appelle Claude Julien. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.